Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Salut Stéphane.
Salut Philippe Vincent, comment tu vas?
Ça va. Tu me parlais de la Chine et de notre belle université d'Ottawa.
Oui, effectivement, on le constate, on en a parlé aussi lundi, mais la Chine pèse lourd au pays. Pour ceux qui seraient pas au courant, l'ambassadeur chinois a imposé que les caméras soient expulsées de la salle où il prononçait un discours en début de semaine. C'était lundi soir à l'Université d'Ottawa.
Et là, juste à dire, en dernière heure, Jacques Frémont, le recteur, s'excuse. Il dit au sujet du caméraman qui n'a pas pu faire son travail, nous avons pris la mauvaise décision au dernier moment. Nous nous excusons, nous aurions dû faire mieux.
C'est le dernier à s'excuser parce que d'autres les auront montrés du doigt avant. Oui. Il y a effectivement une caméra de Radio-Canada qui était déjà installée dans la salle et qui, devant les protestations, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit qualifier l'ambassadeur chinois, mais en fait, devant l'inconfort de l'ambassadeur chinois, a décidé de demander à cette caméra de quitter la salle. Et c'est la direction d'université qui a fait ça. On s'entend que c'était quand même pas une conférence secrète qui était prononcée par l'ambassadeur. C'était un événement très public. Il n'y a donc pas de différence entre toi et moi fondamentale entre la présence du public invité à venir entendre l'ambassadeur et la présence d'une caméra qui l'enregistre. Sinon, peut-être, une différence de principe, la Chine, elle, a imposé ses conditions à l'université qui, une fois encore, a plié devant une forme d'intimidation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit appeler ça. On se rappellera que le professeur ou la professeure chargée de cours, serait plus précis, le lieutenant Duval, avait été laissée un peu à elle-même quand elle avait employé le mot en noir. Une enquête audience sur la suspension de Mme lieutenant Duval reprend d'ailleurs, je pense, ses travaux demain, jeudi. Est-ce qu'il fallait vraiment noyer le poisson, organiser des mois durant une enquête pour savoir sur quel pied bien danser. T'sais, une université, c'est au risque d'être ennuyant en répétant une évidence, mais une université, c'est un foyer de la pensée critique, un espace de liberté. Est-ce qu'on doit méditer des mois avant de décider si une chargée de cours a mis à risque ses étudiants en prononçant un mot? Peut-être blessant. Une bonne partie de la classe politique canadienne à Ottawa semblait le penser, en tout cas à l'époque, parce que de M. Trudeau, au chef du NPD, il y avait eu unanimité pour dénoncer l'usage du mot en classe et laisser aussi entendre entre les lignes que la fautive est peut-être raciste, même à son insu. Alors, dans le cas du discours de lundi soir, je dirais que le cœur avec un H, le cœur de la sainte pensée adéquate, chante sur une nouvelle partition parce que le « la » a été vite donné à ce cœur par le premier ministre Trudeau qui a dénoncé, lui, sans attendre, l'expulsion de la caméra de Radio-Canada.
Mais je suis comme mêlé dans les principes. C'est peut-être moi qui ne comprends pas, là, mais...
On est peut-être deux, Philippe Vincent, à avoir de la misère
ça
avec les principes.
C'est mêlé, ça me rassure que je le sois aussi.
Puis, et c'est mêlant parce qu'effectivement, il a dénoncé vertement l'expulsion de la caméra de Radio-Canada au nom de la liberté de la presse. L'université, disait-il déjà, lui, a fait une erreur avant que M. Frémont le constate. Le ministre du patrimoine, M. Rodriguez, a même dit que la demande des autorités chinoises aurait dû être carrément refusée, quitte à annuler l'événement. Et M. Rodriguez disait que la liberté de la presse, la liberté de presse, ça ne se négocie pas. Et je reviens à ton interrogation sur les zigzags de notre pensée. Et au risque, donc, Philippe Vincent, peut-être de faire un détour, mais je pense que ça n'en est pas un. Si c'était vrai, cette question des principes de la liberté de presse, je pense que le gouvernement canadien aurait, il aurait pris fait et cause pour Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui est en ce moment, disons, persécuté, peut-être même martyrisé. Il faut voir les images du gars aujourd'hui, pour avoir essentiellement permis la publication de documents qui mettent plusieurs gouvernements, particulièrement le gouvernement américain, mais c'est pas le seul, dans l'embarras. C'est pas de l'espionnage, c'était pas de la trahison dont il est coupable. Et c'est ce que dit à répétition le gouvernement américain qui veut l'extrader. Il est essentiellement coupable, Assange, d'avoir emmerdé des puissants de ce monde en publiant leurs secrets. On se rappelle de ces images absolument troublantes où on voyait dans le collimateur d'un hélicoptère de combat, des gens qui étaient visés, entre autres un journaliste qui a été littéralement flingué. Ces documents ont été publiés grâce à WikiLeaks. C'est terriblement inquiétant. C'est ça que fait le journalisme. Il nous met mal souvent. il met nos gouvernements à mal, parce que c'est à ça qu'on sert quand on fait bien notre travail, c'est de poser des questions qui peuvent être très inconfortables pour ceux qui sont au pouvoir. Plusieurs grands journaux, d'ailleurs, collaboraient avec Assange et avec Wikileaks, et profitaient de ces scoops. Ils ont, les journaux dont on parle, pris leur distance quand ils ont senti que la soupe était peut-être un peu chaude. Mais alors, voilà, quant à moi, en tout cas, un exemple de principe où la liberté de presse est mise à mal. Puis dans l'indifférence la plus complète, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui sont solidaires aujourd'hui du gars qui est en prison à Londres et qui attend de savoir s'il va se retrouver aux États-Unis, ce que je ne lui souhaite pas. Alors, les excitations sur de grands principes, et c'est ce que tu disais, sans le nommer, sont souvent à géométrie variable en fonction des impératifs politiques de l'heure, peut-être davantage qu'en fonction d'un absolu éthique, moral, parce que M. Trudeau et son ministre du patrimoine ont eu parfaitement raison, je pense, de dénoncer la couardise de l'Université d'Ottawa, la peur de l'Université d'Ottawa. Ils se sont là-bas effondrés devant les exigences qui étaient dictées par l'ambassade chinoise. Ils ont vraiment abdiqué leur souveraineté. Ils étaient souverains chez eux. C'est eux l'institution. Ils peuvent décider des conditions avant qu'on organise pareille conférence. C'est triste, inquiétant. Je pense surtout inacceptable dans une institution ou pour une institution qui se consacre théoriquement au savoir et devrait surtout cultiver la pensée critique. En fait, pour moi, c'est la conclusion logique et tragique d'une espèce de mouvement dont tu as sans doute souvent parlé à l'émission, d'une révolution culturelle. Puis ça nous ramène à la Chine, mais peut-être pour les raisons les plus inquiétantes, révolution culturelle qui a transformé les universités en machines idéologiques souvent. Phénomène, puis je suis pas spécialiste, il y a Bock Côté qui s'intéresse davantage à ça que moi, puis je vais lui laisser son monopole là-dessus. Mais tu sais, c'est un peu un phénomène qui est importé des campus américains, c'est pas un peu, c'est beaucoup ça. Mais leur leadership aux universités aujourd'hui, il est soit complice du mouvement, ou peut-être souvent terrorisé par de jeunes militants de la pensée, disons pour faire simple, anticolonialiste. Alors les questions soulevées par le mouvement sont parfaitement légitimes, elles sont correctes. Les moyens pour le faire ne le sont peut-être pas, parce qu'on débat souvent plus, on abat. On est effectivement dans le monde à l'envers où la notion de débat est vidée de son sens, puis ça se transforme en péché capital débattre. Donc, on arrive à une inversion orwellienne. La censure protège la liberté d'expression. Et l'Université d'Ottawa n'a fait lundi que la suite logique de ce qui est amorcé il y a longtemps.
Mais c'est aussi de voir la crainte de l'argent, moi j'ai l'impression. Tu dois avoir une notion de cash là-dedans, que la Chine a tellement fait de partenariat avec les universités qu'à un moment donné, ils sentent les mains liées. Là.
Ben, qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir
des principes
cet argent
ou l'argent
qui vient de la Chine. ou des principes. Et s'il y a un endroit où j'espère qu'on pourra encore avoir des principes, faire en sorte qu'on soit capable d'être en désaccord. Tu sais, la science, si on veut partir de ce qui est aujourd'hui devenu l'espèce de référent de là où logerait la vérité, la science, elle avance quand on peut contester des théories, quand on peut faire avancer le discours et celle-ci, la science, en remettant en question de ses préceptes, en acceptant que, par exemple, en physique, les lois de l'atome n'étaient pas la fin des règles de l'histoire de la physique. On a compris avec Planck que la physique quantique changeait ce qu'on pensait être des règles établies pour toujours. Alors, est-ce que l'université, c'est l'endroit où on doit être capable, jusqu'à notre dernier souffle, de remettre en question ce qu'on pense être la vérité? J'espère que oui. Et bien plus que la capacité qu'auront les institutions à aller chercher de l'argent dans un endroit, la Chine, dans un pays, où effectivement, on ne peut pas dire que la liberté d'expression est la première des valeurs mises de l'avant. Les sous, c'est important, mais effectivement, à quel prix? Et j'en ai pas contre les Chinois. Les Chinois, eux, ils font ce qu'ils pensent être leur plan de match. Ils sont irréprochables de leur point de vue. Ils s'occupent de leurs intérêts. Les Chinois qui demandent à l'université de mettre la caméra à la porte, qui disent « notre conférence va se faire à nos conditions », c'est leur droit le plus strict. Ils ont le droit de nous pousser, ils ont le droit de nous plaquer. La question, c'est est-ce qu'on a envie de faire de l'aplat-ventriste? Parce qu'il y a une responsabilité que nous avons. Si on pense qu'on incarne des valeurs, qu'est-ce que ça signifie incarner des valeurs? Se tenir peut-être.
Il faut le faire
debout.
Quand c'est difficile aussi, là, pas juste quand c'est
surtout
facile,
là que ça compte, parce que quand c'est enfoncer des portes ouvertes, c'est donné à tout le monde et c'est d'ailleurs souvent à la mode. La question, j'allais te dire, parce que je pensais à la une du Journal de Montréal et des policiers qui ont enfoncé la porte ouverte d'une maison qui n'était pas la bonne. J'allais dire, enfoncer des portes, ça a de la valeur quand il y a de la résistance et quand tu prends un risque, celui de te faire mal. L'université, dans ce cas-ci, n'a pas pris grand risque.
Non, mais surtout, en plus, l'ambassadeur chinois avait déjà rabroué des journalistes à Ottawa. Là, moi, j'ai une collègue qui est allée à une conférence de presse et qui avait posé une question, somme toute, correcte, sur l'ingérence chinoise, puis le fait que la démocratie, puis les droits de la personne, puis les Ouïghours, puis bon, c'est des questions qui se posent de base. Là. Et là, l'ambassadeur lui a rentré dedans. Puis les ministres l'ont pas défendu, la journaliste l'ont pas défendu. Ils l'ont fait après, tu sais, défendre le droit de poser des questions. C'est aussi ça, tu sais, c'est quand t'as un gouvernement qui envoie le signal que, hey, on est copains, il faut faire un peu d'aplaventrisme. Après ça, tu peux pas te demander pourquoi les universités font la même affaire, là.
T'as raison. Comme on dit dans la famille, avec les parents et les enfants, l'exemple part de haut. Si tu veux donner l'exemple à tes enfants, encore faut-il que tu dépasses ton discours et que tu l'incarnes dans ta pratique. Moi, ce qui m'intéresse aussi en ce moment, c'est que cette espèce de réaction quasi épidermique de M. Trudeau, de M. Rodriguez, vient après une espèce de volte-face dans la politique étrangère canadienne depuis quelques semaines. Ça s'exprime beaucoup par la voix de Madame notre ministre des Affaires étrangères, Madame Joly, soudainement, la Chine doit être contrée. C'est pas exactement dit de cette manière-là, mais on l'a vu, on investit en Asie, on veut augmenter notre présence militaire, on veut s'acheter de nouveaux tire-poids peut-être pour être capable de tenir tête aux Chinois. Enfin, il y a tout ça, alors qu'il y a pas si longtemps, cette relation était stratégique, essentielle. Et ça faisait sens, parce qu'il y a des relations économiques fortes qui lient l'Occident, pas juste le Canada et la Chine. Si on a contré l'inflation depuis 20 ans, c'est peut-être un peu beaucoup parce qu'on a produit pour des peanuts en Chine. C'est-à-dire que la production, la valeur de la production s'est effondrée grâce à la sueur et au sang des travailleurs chinois.
On a pu acheter plus de cossins à moins cher ou encore moins cher.
Exactement. Tu sais, le magasin à 1$ est un concept, ou à 2$ peut-être aujourd'hui avec l'inflation, est un concept qui dépendait beaucoup de cette capacité à produire pour rien. On disait qu'on a exporté notre inflation. C'est un peu ça. T'sais, on a importé de la déflation avec des produits qui coûtaient vraiment pas cher. Ça faisait notre bonheur et c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, un peu dans la foulée, je te dirais, d'un mouvement qui a été amorcé en 2016 et 2020, beaucoup par le redoutable Trump, qu'on aime détester, mais qui, sur la question de la Chine, a été assez implacable. Une politique qui a été suivie à peu près pour l'essentiel par l'administration Biden. Puis on voit aujourd'hui M. Trudeau et son équipe dire oui, la Chine, mais non. Donc, soudainement, on est plus capable, mieux capable de contester, de dire on va vous demander, s'il vous plaît, de respirer par le nez en Chine, parce qu'on pense que nos intérêts ne sont pas toujours concordants avec les vôtres. C'est nouveau. Et c'est là aussi qu'il y a des indignations à géométrie variable. Est-ce qu'on aurait été aussi prompt à répondre, tu sais, face à ce qui s'est passé à l'université, il y a 3 ans ou 4 ans, quand la Chine était encore, non pas en odeur de sainteté, mais certainement plus à la mode qu'elle l'est aujourd'hui, j'en sais rien. Tu sais, il se trouve que, je pense que c'est Chantal Hébert que j'aime bien, qui disait, dans notre politique étrangère, le Canada a un problème de déficit d'attention. C'est vrai qu'on change souvent de politique, où on a l'impression qu'on réoriente nos priorités. Je pense pas que la Chine va beaucoup souffrir de ce qu'on soit davantage sur nos gardes aujourd'hui, mais il est évident qu'il était plus facile, en tout cas, de dénoncer l'attitude de l'ambassadeur chinois aujourd'hui, qu'on a comme accepté sur la place publique qu'il y avait un péril en la demeure avec cette rivalité qui oppose la Chine au reste du monde. Et encore une fois, les Chinois, eux, on ne peut que respecter leur implacabilité. C'est leur plan de match. On peut ne pas le partager, évidemment, mais c'est à nous de nous tenir debout. C'est pas à reprocher aux Chinois de faire ce qu'eux pensent, ce qui sert leurs intérêts. C'est, de ce point de vue-là, moi, c'est comme la Russie. Mes intérêts ne croisent pas nécessairement ceux de la Russie, mais clairement, ils agissent comme eux pensent qu'il est bon dans leur intérêt de le faire. À nous de décider, face à ce qui peut être un adversaire, ce que doit être notre réponse. Mais à chaque fois qu'on parle de valeur et qu'on s'écrase en même temps, puis on envoie un message contradictoire. Puis je reviens à la famille. Un bon parent va dire une chose et faire la même chose. Puis il y a de fortes chances que l'enfant comprenne éventuellement que c'est cohérent.
Ouais. Puis il y a aussi le fait que mané, si tu veux changer une situation problématique, t'es deux dedans. Puis si ce que t'aimes pas de l'autre, ben c'est
exactement
sa nature fondamentale.
Exactement.
C'est peut-être à toi de revoir ta place dans cette
parce
relation-là.
Qu'on contrôle, c'est ça. On contrôle pas ce qu'est le plan de match de la Chine ou de la Russie, mais on contrôle notre capacité d'indignation, notre réponse. Et encore une fois, quand on parle de valeur, parce que c'est un mot terriblement à la mode. Puis revenons à ce que tu disais. Je pense que c'est très intéressant. Comment se fait-il que ces valeurs soient à géométrie variable? Une fois la logique vaut, le lendemain pas. Pourquoi? Moi, je crois à la constance, si tu parles de valeurs. Il faut être capable de les incarner, beau temps, mauvais temps.
Oui. Puis après ça, on aura une bonne discussion sur la politique étrangère canadienne qui, en bout de ligne, n'est que politique domestique. Parce que on est là simplement pour courtiser des électeurs. Mais ça...
On pourrait se poser la question, je sais que c'est absolument pas politiquement correct et tu me tends la perche, mais est-ce qu'on peut absolument découpler historiquement? Je ne parle pas du contexte de la guerre depuis 9 mois. Est-ce qu'on peut découpler la politique étrangère du Canada face à l'Ukraine de la communauté ukrainienne dans l'ouest du pays, dans le centre du pays, qui pèse très lourd? Et c'est normal. Est-ce qu'on peut découpler? La réponse, c'est je ne pense pas.
Stéphane, excuse-moi, Richard.
Richard, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois trompé, moi qui t'ai appelé David Philippe ou Jean-Maurice Philippe une fois.
Stéphane, je m'excuse. La tête était comme deux pas en avant. Bonne journée.
En général, on dit bonjour, Monsieur Bruno.
Monsieur Bruno, bonne journée.
Merci.
Salut.